Eh bien, bonjour, frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Ne vous inquiétez pas de savoir si votre enfant vous écoute. Inquiétez-vous plutôt à la pensée qui vous observe. Ainsi dit le professeur Ronald Heifetz, professeur à l'université de Harvard. Ne vous inquiétez pas de savoir si votre enfant vous écoute. Inquiétez-vous plutôt à la pensée qui vous observe. Pourquoi cela? Parce que ce que nous faisons, l'exemple que nous montrons, est beaucoup plus puissant que les paroles que nous pouvons prononcer. Et notre exemple a un très grand impact sur nos enfants et sur d'autres personnes aussi qui nous entourent. Il y a des différences à différentes phases dans la vie, à différentes parties de la vie, de ce que nous sommes capables de faire. Et notre exemple peut avoir une importance différente à différents moments de la vie. Mais notre exemple a une grande importance, quel que soit notre âge. Quand je commençais à apprendre le français au lycée aux États-Unis, un proverbe qu'on devait apprendre vers le début était « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Ce qui souligne la différence entre l'expérience qu'ont les personnes plus âgées et l'énergie qu'ont des personnes plus jeunes. Il y a différentes capacités dans la vie à différents moments. Dans l'Église de Dieu, nous formons un seul corps, la Bible nous le dit. Nous devons tous accomplir nos tâches respectives selon nos capacités, et ça veut dire selon notre tranche d'âge, notre station dans la vie. Et nous devrions tous faire cela ensemble afin de pouvoir rendre le corps de l'Église plus fort et plus efficace dans l'accomplissement de sa mission. Notre exemple va devenir de plus en plus important avec le temps qui passe, puisque le comportement que nous allons voir dans le monde va se dégrader de plus en plus, notre exemple aura de plus en plus d'impact sur d'autres personnes. En pensant à cela, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons âgés, d'âge moyen, jeune couple marié, homme ou femme célibataire, adolescent, qu'est-ce que Dieu attend de nous selon notre station dans la vie? Est-ce qu'il en parle dans sa parole? Qu'est-ce qu'il nous révèle dans sa parole? Eh bien, prenons Tite chapitre 2 et nous allons voir effectivement que Dieu nous donne des conseils. Il explique ses attentes de nous selon la partie de la vie où nous nous trouvons. Et nous allons voir que beaucoup de ce que nous allons voir ici, c'est très applicable pour nous aujourd'hui, comme ce fut le cas depuis 2000 ans. Tite chapitre 2. Donc, à partir du verset 1, nous allons voir certaines attentes que Dieu a de nous selon notre moment dans la vie, selon la phase où nous nous trouvons. Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, c'est Paul qui parle à Tite, donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Et nous allons continuer ensuite, dans un instant, au verset 3, où nous arrivons aux femmes plus âgées. Mais nous avons ici plusieurs conseils que Dieu donne à des vieillards ou à des hommes plus âgés. Il faut savoir qu'à l'époque où Paul a écrit ceci, on ne vivait pas aussi longtemps qu'à notre époque. On mourait souvent, d'après une source que j'ai consultée, qui s'appelait « L'expérience de la vieillesse dans Rome ancienne » par Karen Cotton. On mourait souvent avant l'âge de 50 ans, et encore plus fréquemment entre 50 et 55 ans. On était considéré comme un vieillard, donc déjà à l'âge de 40 ans environ, on pouvait être considéré ainsi. Donc, à partir de l'âge de 40 ans, plus ou moins, voici quelques attentes qui sont expliquées. 6 choses sont mentionnées pour les hommes d'âge mûr. Quels sont ces 6 attributs? Eh bien, ils doivent être sobres. Littéralement, dans le grec, ça veut dire s'abstenir de vin, s'abstenir de trop de vin. Autre façon de le dire, c'est d'être clair d'esprit. Être clair d'esprit, comprendre ce qui se passe, être clair dans sa tête à tout moment. Ça veut dire évidemment pas trop de boissons alcoolisées, mais ça veut dire aussi d'éviter toute autre chose qui pourrait interférer avec notre raisonnement, qui pourrait nous rendre déraisonnables. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que nous soyons raisonnables à tout moment. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça spécifiquement aux hommes? Je pense que c'est parce qu'avec le temps, nous pouvons devenir très très sûrs de nos opinions et très sûrs que les autres se trompent dans leurs avis. C'est un point faible, souvent, pour un homme d'âge mûr. Il a une opinion forte, il est absolument certain qu'il a raison, et il n'est pas prêt à considérer le point de vue d'autres personnes. Les opinions peuvent devenir, dans l'esprit, un fait incontestable. Et ça, c'est une chose à éviter. Ça peut déformer sa façon de penser. Donc, les hommes d'âge mûr doivent être sobres, doivent être clairs dans leur tête, doivent raisonner logiquement à propos des choses et pas être trop sûrs de leurs opinions. Deuxièmement, ils doivent être honnêtes. L'expression dans le grec, littéralement, c'est « ils doivent mériter le respect », doivent par leur comportement mériter le respect. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, pour mériter le respect d'autrui, on doit témoigner une certaine dignité personnelle. Un sérieux, une réflexion dans ces démarches qui invitent l'honneur et le respect. Une certaine gravitas, on va dire, qui ferait en sorte que d'autres personnes vont respecter cet homme d'âge mûr. Troisième chose qui est mentionnée, c'est qu'il doit être modéré. La modération ici, il est question de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi dans sa pensée, et dans son jugement également, sa façon de juger, de rendre un avis. Modéré, maîtrise de soi. Ça aussi, c'est parfois un piège pour les hommes d'âge mûr de devenir un peu grognard, impatient avec d'autres personnes, d'élever la voix facilement, d'être colérique. Vous avez certainement, vous pouvez penser à des exemples de personnes comme ça, qui s'emportent vite. C'est un point faible pour certains monsieur arrivés à l'âge mûr. Et c'est une chose que nous devrions, d'après ce passage, nous efforcer d'éviter. Le quatrième attribut que nous avons lu ici, c'est d'être saint dans la foi. Dans la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la Bible, avoir la foi ou pratiquer la foi, ça veut dire la bonne doctrine, cette démarche dans tout ce qui est le christianisme. Mais ça veut dire aussi plus littéralement la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. De témoigner une confiance en Dieu vécue au jour le jour, d'affronter des difficultés de la vie, les désagréments de la vie, les déceptions de la vie, de faire face à cela avec courage et avec confiance dans la bonté de Dieu et le fait que Dieu a notre bien-être à cœur et que finalement notre histoire personnelle va bien se terminer. Saint dans la foi. Cinquièmement, les hommes d'âge mûr doivent être saints dans l'amour, c'est-à-dire de montrer une certaine maturité, de ne pas être égoïste, pas vengeur, pas colérique. C'est un piège dans lequel on peut peut-être plus facilement tomber quand on est homme d'un certain âge, d'âge mûr. Et puis sixièmement, saint dans la patience. Saint dans la patience, ça veut dire l'amour dans la durée, qui dure, une persévérance qui supporte les difficultés, les douleurs, les afflictions, comme j'ai dit tout à l'heure, les déceptions, et on va tous en avoir, les choses qui ne vont pas se faire exactement comme on en avait rêvé ou comme on avait souhaité dans le passé. Les afflictions de la vie, les douleurs qu'on a, les parties du corps qui ne fonctionnent plus comme auparavant, il y en a de plus en plus de ça avec le temps qui passe. Donc, l'endurance, un exemple de maturité. Ce sont des attributs, des qualités que Dieu a soulignées expressément pour les hommes d'âge mûr. Nous devrions montrer cet exemple de gravitas, de stabilité et d'amour envers ceux qui nous entourent. Ce sont des instructions très précises que Dieu nous donne à nous autres hommes d'âge mûr. Regardons aussi, et mettez s'il vous plaît le ruban de votre Bible dans ce passage dans Tite, car nous allons revenir assez fréquemment, évidemment, pour voir la suite de ce qui sera dit. Mais une fois que vous aurez fait ça, revenons dans Proverbes chapitre 16, Proverbes chapitre 16, verset 31. Proverbes chapitre 16, verset 31. Nous lisons là, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Évidemment, ce n'est pas toujours dans le chemin de la justice qu'on trouve des cheveux blancs, n'est-ce pas? Et en fait, ce passage serait mieux traduit, une autre traduction possible, et à mon avis une meilleure traduction. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur si c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Si c'est dans le chemin de la justice qu'on trouve cette couronne. Et nous voulons porter cette couronne d'honneur par notre comportement. En vieillissant. Prenons quelques exemples, et nous allons prendre quelques exemples à chaque fois pour voir dans la Bible des personnes qui ont bien rempli le rôle qui leur est attribué dans Tite. Prenons par exemple l'exemple de Caleb dans Josué chapitre 14. Josué chapitre 14, à partir du verset 6. Josué chapitre 14, verset 6. Là, nous lisons, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi je suivais pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. » Il y a 40 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, et il était toujours en forme. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Et Josué a béni Caleb pour son exemple très inspirant. C'était un homme droit, il a toujours suivi fidèlement Dieu, les instructions des serviteurs de Dieu, Moïse, maintenant Josué. C'était un travail difficile que de s'attaquer à cette région où il y avait des géants comme Goliath. Et Caleb, à 85 ans, il se porte volontaire. Dieu m'a préservé, pas de raison que je ne puisse pas m'acquitter de cette tâche. Il se porte volontaire et il a réussi. Dieu a béni ses efforts à cause de cet exemple qu'il a montré. Josué aussi était un excellent exemple dans sa l'âge mûr, on va dire, dans Josué chapitre 24. Nous allons voir quel était l'impact de l'exemple de Josué. Josué chapitre 24, verset 1. Vers la fin de sa vie, maintenant, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, les chefs, les juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc, il va redire l'histoire. Il va répéter l'histoire d'Israël avant de mourir. Verset 14. Maintenant, il dit, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Il a dit, « Quoi que vous fassiez, Moi et ma famille, nous allons faire ce qui est juste et droit devant Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Et le peuple a été beaucoup influencé par son exemple. Son exemple a frappé fort. À tel point que nous lisons au verset 31, « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » Non seulement le souvenir de ces miracles était encore dans leur mémoire, mais ils avaient vu l'exemple d'un homme très fidèle, un homme qui avait montré un excellent exemple dans son âge mûr, Josué. Et son exemple a beaucoup influencé sa nation, et en bien, pendant toute sa vie et pendant la vie de ceux qui l'ont suivi, pendant toute une autre génération. Israël est resté fidèle à Dieu, en grande partie à cause de cet exemple. Alors, revenons dans Tite chapitre 2 et voyons la suite des instructions qui sont données. Tite chapitre 2, nous poursuivons au verset 3. Tite chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc nous avons un peu un mélange de ce que les dames d'âge mûr et les jeunes femmes doivent faire. Donc, commençons d'abord avec les femmes d'âge mûr. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. D'autres traductions le mettent un peu autrement. La version synodale dit « que les femmes âgées aient un maintien empreint de sainteté ». Un maintien empreint de sainteté. Et la version Darby dit de même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être comme il convient à de saintes femmes. Elles doivent montrer qu'elles considèrent la vie comme consacrée à Dieu de toutes les manières, de tous les côtés. C'est marqué ensuite de n'être pas médisante, de ne pas pratiquer le commérage. Et si la Bible dit ceci, pour chaque groupe dont nous allons lire aussi, c'est qu'il y a une forte tentation de verser dans ces choses que la Bible dit qu'il ne faut pas faire. Comme nous avons vu, pour les hommes, c'est de ne pas s'emporter. C'est facile à faire pour un homme d'âge mûr. Eh bien, pour une femme d'âge mûr, c'est facile d'être médisante. C'est facile de pratiquer le commérage. Je pense que je vous ai déjà dit dans d'autres sermons que, en fait, les chrétiens ne pratiquent jamais le commérage, mais ils partagent des demandes de prière. Vous avez entendu? Ah, il faut prier pour lui parce que, écoutez, je vais tout vous dire. Nous ne voulons pas tomber dans ce panneau-là. Il ne faut pas être médisante, ni adonnée aux excès de vin. Ça, apparemment, c'est une tentation pour les personnes âgées, les personnes masculines ou féminines. On peut être tenté d'avoir un petit peu trop dans les après-midi ou en soirée. Et il faut faire attention à cela. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Les femmes d'âge mûr ont une responsabilité de montrer un bon exemple tout d'abord et de conseiller, d'aider les jeunes femmes à apprendre comment faire au foyer, comment faire avec les enfants. Il y a beaucoup d'astuces que les plus jeunes peuvent apprendre des personnes qui ont l'expérience de l'avoir déjà fait. Je peux penser, mon épouse et moi, nous en parlons parfois, nous pensons à des membres de l'Église quand nous étions tout jeunes. Moi, j'étais dans le ministère, mais il me manquait d'expérience dans beaucoup de domaines dans la vie, comme j'avais commencé assez jeune. Et quand nous commencions à avoir nos propres enfants, nous, on ne savait pas tout. Il fallait demander conseil, et on l'a fait. Et on a apprécié certains des conseils que nous avons reçus. Ce n'était pas toujours de bons conseils, mais au moins on pouvait séparer les bons des moins bons, et ça nous était salutaire. Eh bien, les dames d'un certain âge peuvent faire cela. Par leur exemple, tout d'abord, montrer un bon exemple, et ensuite, quand l'occasion se présente, quand on pose la question, donner un bon conseil. Le plus souvent, il vaut mieux attendre qu'on demande conseil, plutôt que de donner son avis quand ce n'est pas voulu, le plus souvent, ben, pas toujours. Il peut y avoir des cas contraires également. Mais ça veut dire aussi que pour les jeunes femmes, les jeunes mamans, c'est bien de demander conseil, poser des questions. On peut profiter de l'expérience. On peut profiter de l'expérience des autres. Regardons l'exemple de nos personnes d'âge mûr, hommes et femmes, regardons leur exemple. Suivons les bons exemples et écoutons leurs conseils. Demandons conseil souvent. Quels sont quelques exemples dans la Bible de femmes d'âge mûr qui ont montré un bon exemple? Eh bien, on pourrait penser à Élisabeth. Jean-Baptiste allait jouer un rôle très important dans le plan de Dieu. Jésus a dit de lui qu'il n'y avait pas d'homme plus grand né de femme. Alors, Dieu voulait chercher des parents qui seraient d'excellents exemples. Dans Luc chapitre 1, Dieu aurait pu faire naître Jean-Baptiste dans la famille de n'importe qui, du moins un homme ayant les qualités nécessaires pour accomplir sa tâche. Et il a choisi donc des parents exemplaires. Luc chapitre 1, verset 5. Je suis dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les fils d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Un très bon exemple de femme âgée. C'est marqué qu'il était, elle était, comme son mari, irréprochable dans l'observation des commandements de l'Éternel. Et Dieu a pris note de sa façon de vivre, il a pris note de son exemple. C'était un couple irréprochable, et Dieu les a choisis, même dans leur vieillesse, pour accomplir une responsabilité spéciale. Et ils étaient réputés à l'époque, et ils sont encore très réputés aujourd'hui, à cause de cet honneur que Dieu leur a octroyé, à cause de l'exemple qu'ils montraient. Ils s'acquittaient bien de leur responsabilité. Dieu a choisi ce couple spécial et Élisabeth en particulier pour devenir la mère de celui qui allait annoncer la venue de Jésus-Christ. Il y a un autre exemple que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Chapitre 9, verset 36. Actes, chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, et qui, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre se trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Donc, nous avons le miracle, une résurrection d'une morte ici, à cause de l'exemple que Tabitha avait montré. Elle était évidemment une femme exemplaire dans son comportement, mais elle était aussi connue pour pratiquer, comme nous avons lu ici, de bonnes œuvres et des aumônes. Elle était connue pour cela. Elle consacrait son temps à servir d'autres personnes. Elle ne perdait pas son temps dans des futilités, des amusements ou autre chose. Elle trouvait des moyens concrets pour aider et servir d'autres personnes. Ça, c'est un bon exemple de comment on peut passer son temps dans son âge mûr. Je connais depuis mon enfance plusieurs dames, vieilles dames dans l'église, qui tricotaient ou qui fabriquaient des vêtements, qui veillaient à cette sorte de bonnes œuvres. Je pense en particulier à une vieille dame au Missouri, à Saint-Louis. Nous avons vécu pendant un certain nombre d'années. Elle tricotait des chaussons. Et je peux vous dire que la moitié de l'église avait ses chaussons qui étaient épaisses et très gardaient les pieds au chaud pendant l'hiver. Et elle était exemplaire pour cela. Eh bien, Tabitha, c'est un autre exemple, donc, d'une dame d'un certain âge qui a montré un très bon exemple, un exemple digne dans son comportement. Elle était bonne chrétienne, mais en plus, elle utilisait son temps pour servir ses frères et sœurs dans l'église. Et ça avait impressionné Dieu à tel point que, fait rare dans la Bible, il a ressuscité des morts. Dieu a décidé qu'elle méritait quelques autres années. C'est un très bon exemple pour nous encore aujourd'hui. Puis quand nous revenons dans Tite, pour continuer, nous voyons maintenant à la fois deux choses, deux volets. Ce que les dames d'un certain âge doivent enseigner aux jeunes dames dans l'église, mais aussi ce que les jeunes femmes doivent apprendre et doivent donc mettre en pratique dans leur propre vie. Voici les instructions qui sont là donc pour les jeunes femmes, les jeunes adultes et les jeunes mamans. Les jeunes femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants. Est-ce que ce n'est pas naturel d'aimer son mari et ses enfants? Peut-être jusqu'à un certain point, mais peut-être on peut être distraite par autre chose maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a le monde de l'emploi qui peut être très accaparant. On peut chercher à avancer son métier, sa carrière. Il y a beaucoup de diversions qui sont disponibles maintenant, beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Apparemment, il y a un risque qu'une jeune femme ne va pas aimer son mari ou ses enfants, ou pas consacrer suffisamment de temps là, elle mettre son temps ailleurs. Nous montrons notre amour par le temps que nous passons. Nous montrons notre amour envers Dieu par le temps que nous passons à la prière, à l'étude de la Bible et la réflexion de comment nous pouvons vivre selon sa voie. Et nous montrons notre amour les uns envers les autres par le temps que nous prenons pour eux, destiné à eux. Et c'est une chose à garder à l'esprit pour les jeunes femmes. Verset 5, elles doivent être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Parfois, le fait d'être soumise à son mari, beaucoup de jeunes femmes dans le monde actuel refusent cela. Je me souviens quand ma femme, qui a une très grande famille, quand la plupart de ses frères et sœurs ne pouvaient pas assister à notre mariage, on l'a fait enregistrer sur vidéo pour que les autres puissent le voir. Et quand nous sommes arrivés à cette partie de la cérémonie où on expliquait que la femme devait être soumise à son mari, la plupart de ses sœurs ont fait un bruit qui montrait qu'elles n'étaient pas du tout d'accord avec cela. Ça nous a beaucoup marqué. Mais si nous voulons vivre à la manière biblique, selon Dieu, les commandements de Dieu, les instructions de Dieu ne changent pas avec le temps, eh bien, la femme doit être soumise à son mari. Si ça semble difficile, eh bien, c'est important pour les jeunes femmes d'avoir l'idée à l'esprit, je ne vais pas me marier avec un homme à qui j'aurai du mal à me soumettre. Voilà tout. Ne vous mariez pas avec un homme à qui vous aurez du mal à vous soumettre. Il faut se marier avec quelqu'un pour qui ou avec qui ça ne va pas présenter de problème. Alors, dans cette liste de choses que nous avons ici, les jeunes femmes doivent se comporter comme ceci, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Si nous nous prétendons chrétiens ou chrétiennes, et nous vivons de manière différente de ce que la Bible dit, eh bien, la parole de Dieu peut être calomniée. Dieu peut être calomnié. L'Église peut être calomniée. C'est une responsabilité que nous avons tout un chacun. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces autres traits qui sont mentionnés? Eh bien, au lieu de retenue, la version synodale dit modeste. La modestie fait partie de l'exemple que nous devrions montrer. La version Darby met sage au lieu de retenue. Aimer pur au lieu de chaste. La chasteté, évidemment, être fidèle à son mari, mais de se comporter de manière pure. De manière pure. Dans tout ce que nous faisons. Elles doivent s'occuper des soins domestiques. Et de nos jours en particulier, c'est parfois des choses que les jeunes femmes n'apprennent plus. Et nos jeunes femmes peuvent profiter pour apprendre ceci de celles qui sont plus âgées. Occuper des soins domestiques. À cause de la précarité de l'emploi aujourd'hui, parfois il y a des besoins pressants financiers, parfois les épouses travaillent en dehors de la maison. Si c'est une nécessité pour votre famille, vous n'avez pas à vous sentir coupable, et rien de mal à travailler dehors pour l'épouse. Mais de notre côté, il ne faut pas se sentir amoindri si on n'est que femme au foyer. Une femme qui reste au foyer, qui s'occupe à temps plein de ses enfants, elle accomplit une tâche louable, de grand honneur devant l'Éternel. C'est dommage, mais cette position de femme au foyer n'est pas aussi respectée aujourd'hui qu'elle devrait l'être. Et la société veut qu'une femme, pour pleinement réaliser sa potentialité, elle doit sortir et travailler dehors comme son mari. Alors que la Bible ne dit pas cela. Les femmes qui restent au foyer travaillent beaucoup pour la santé émotionnelle, la santé physique même de leur famille. Le papa est le chef de la famille, mais le foyer tourne autour de la maman. La famille tourne autour de la maman. Elle fait tant pour préparer la prochaine génération, pour montrer le bon exemple, pour donner l'enseignement aux enfants. Nous ne devons pas perdre notre compréhension de cette hiérarchie de responsabilité. Notre responsabilité d'abord, c'est de faire ce que Dieu dit, et après, de faire autre chose si c'est possible. Nous ne devrions pas perdre dans nos familles la compréhension de l'importance qu'une femme s'occupe des soins domestiques. Pour avoir une famille forte et soudée, c'est nécessaire. La famille ne sera pas aussi forte et pas aussi soudée si la maman ne s'occupe pas de ses responsabilités-là. Regardons 1 Timothée chapitre 5. Verset 14. Tout comme Paul a donné cette explication ou cette instruction à Tite, il a donné un conseil similaire à Timothée. 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, les jeunes femmes, les jeunes veuves, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Ça arrivait beaucoup plus souvent à cette époque-là, que les jeunes femmes se trouvaient veuves, eh bien, le conseil de Paul était de refonder une famille, si on était suffisamment jeune pour le faire, et ne pas se laisser aller à suivre ses propres penchants, comme le fait le monde. Ça s'est produit à l'époque de Paul, cela peut facilement se produire encore aujourd'hui. On voit l'importance de la famille. Nous ne devrions rien faire par notre comportement qui serait choquant à la société dans laquelle on vit. Sinon, on donne à l'adversaire une occasion de médire. Et ça, c'est une chose évidemment que nous ne voulons pas. Ça peut être le cas pour nous tous, hein, quelle que soit notre station, notre âge dans la vie ou que nous soyons hommes ou femmes. Eh bien, si nous ne respectons pas, si nous n'appliquons pas à nos rôles respectifs, eh bien, ça peut être un sujet de calomnie à l'Église et ça peut entraver la propagation de la parole de Dieu et la prédication de l'Évangile. Prenons un exemple dans la Genèse, Genèse 24. Genèse 24. Nous avons l'exemple de Rebecca, qui est un très bon exemple d'une jeune femme, qui a montré plusieurs qualités importantes. Genèse chapitre 24, à partir du verset 1. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Et ce serviteur, beaucoup digne de patience, il part accomplir sa mission. Verset 10 maintenant. Genèse 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nakhor, et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle était chaste en son comportement. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous ses chameaux. Un chameau, après un long voyage, peut boire beaucoup d'eau. Et sortir cette eau à la main par ce puits montrait que c'est une jeune femme responsable, travailleuse et hospitalière. Elle respectait les règles d'hospitalité. Et finalement, Dieu avait fait en sorte que ce soit elle qui soit la femme recherchée. Elle a montré plusieurs très bons traits ici. Elle avait été fidèle dans son comportement, chaste sexuellement. Elle était travailleuse, comme j'ai dit, et elle aidait les étrangers. Elle était prête à travailler pour donner un coup de main à quelqu'un d'autre, sans demander rien en retour. Voilà un excellent exemple d'une jeune femme qui a accompli son rôle, selon ce que la Bible nous dit. Évidemment, nous pensons au Proverbe chapitre 31, la femme de Proverbe 31. On ne sait pas si elle est très jeune ou plus âgée, mais en tout cas, elle peut servir d'exemple aux femmes de tout âge. Nous pouvons considérer l'exemple de 1 Samuel chapitre 25 aussi. 1 Samuel chapitre 25. Abigail. Une femme exemplaire également. 1 Samuel chapitre 25, verset 2. 1 Samuel 25, verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'est une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était, il n'avait pas suivi les instructions que nous avons lues tout à l'heure. Il était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Ça, c'est intéressant à noter en passant que les qualités de Caleb, d'être ferme, eh ben, ça peut pencher dans le sens d'être dur et méchant également. Ce sont les revers d'une médaille. Hein. Ça peut être bien ou ça peut être utilisé de manière mauvaise. Et là, il n'a pas utilisé sa fermeté, certaines qualités, il ne les a pas utilisées comme il aurait fallu. Verset 10. Nabal répondit au serviteur de David qui protégeait ses troupeaux, etc., qui lui faisait beaucoup de bien. « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Très insultant, n'est-ce pas ? Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leur épée, David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux et lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. » Intéressant de réfléchir à cet exemple-là de Nabal, un homme d'un âge mûr, qui ne montre pas les qualités qu'il faudrait. On a peur de l'approcher, il refuse d'écouter, il pense que son opinion est le plus importante de tout, et ainsi de suite. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passe devant moi, je vais vous suivre. » Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna devant contre terre. Puis se jetant à ses pieds, il dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie, signification de son nom. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Et puis, elle s'explique. « Accepte, verset 27, ce présent que ta servante t'apporte. » Verset 28, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, quand mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Verset 32, David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Sinon, j'aurais fait un massacre. » Littéralement, il l'aurait fait. Un très bon exemple de sagesse, de diplomatie, de bon sens, de savoir intervenir pour empêcher que quelque chose de mauvais n'arrive. Un très bon exemple de cette sagesse qu'il le faut. Et puis, je voudrais voir encore un autre exemple dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, une indication de pourquoi Marie a été choisie comme mère de Jésus. Nous étions dans Luc chapitre 1 déjà, et Zacharie n'a pas cru à l'ange lorsqu'il est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et cette manque de foi n'était pas un bon exemple. Verset 20, l'ange Gabriel lui dit, « Tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Quand on voit un ange, et c'est clairement un ange, on doit croire, alors qu'il n'a pas fait, il n'a pas cru. Alors que quand nous arrivons à Marie, elle a cru tout de suite. Luc chapitre 1, verset 26. « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette vision, par cette parole plutôt, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Et Marie, verset 38, dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle a cru. Verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Zacharie n'a pas cru. Marie, toute jeune femme qu'elle était, probablement adolescente encore, elle a cru. L'ange lui dit quelque chose, elle accepte, très bien. Je ne comprends pas tout, mais c'est manifestement la volonté de Dieu. J'accepte et je suis. Excellent exemple d'une jeune femme. Les jeunes femmes sont capables de montrer d'excellents exemples en ce genre. Et nous sommes bénis dans l'Église d'avoir beaucoup de bons exemples parmi nos jeunes filles et nos jeunes hommes également. Et ça, c'est la suite et la fin de ce que nous verrons aujourd'hui. Revenons dans Tite chapitre 2. Voyons ce qui est dit à propos des jeunes hommes. Tite chapitre 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Pourquoi de même? Exhorte les jeunes gens de même de se comporter comme il faut, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, ce que nous avons vu dans le verset précédent. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Ce qui est marqué là, c'est qu'il soit modéré. Et une manque de modération est un piège dans lequel les jeunes hommes peuvent facilement tomber. Ils veulent aller aux extrêmes, ils veulent aller trop loin, ils veulent pousser les limites, comme on dit aujourd'hui. Et ça, c'est une chose qu'un jeune homme chrétien va éviter. Il leur dit d'être un bon exemple dans d'autres choses. Tout d'abord la modération, dont il a parlé, d'être modéré. Darby dit « sobre ». Synodal dit « vivre dans la tempérance ». Campon dit « à être pondéré en tout ». Pondéré en tout, bien réfléchir à ce qu'on va faire. Ne pas agir et puis réfléchir après, comme c'est facilement le cas pour des jeunes gens. Nous voulons avoir de la modération dans nos activités, et ça c'est vrai pour tout le monde. Ni trop peu de ce qu'il faut, ni trop haut de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas aller aux extrêmes, ni trop peu, ni trop extravagant. Et puisque la Bible mentionne précisément pour les jeunes hommes, on doit reconnaître qu'ils peuvent avoir une tendance là à agir sur un coup de tête, sans trop réfléchir, sans toujours se maîtriser, d'agir comme si on était indestructible. Et on peut facilement imaginer sans trop y penser que c'est le cas. Ça ne peut pas me faire mal. Donc, le contraire de tout cela, c'est d'être équilibré, d'avoir de la retenue et de pondérer, de réfléchir, d'être pondéré en tout. Prenons quelques exemples. Genèse 41. Genèse 41, nous avons l'exemple de Joseph qui s'est comporté brillamment tout en étant très jeune, quand il a commencé ses déboires avec l'esclavage, prison, Potiphar et tout cela, il était jeune homme. Genèse chapitre 41, Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Un jeune homme humble, et qui sait se comporter devant les autres, beaucoup de savoir-faire, de savoir-vivre. Verset 34, chapitre 41, verset 34. Que Pharaon, après avoir expliqué le songe, il se permet d'aller un pas plus loin et d'expliquer ce qu'il faut faire pour parer à ces 7 années de vaches maigres qui sont prophétisées. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions, seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et le verset 46 dit, nous connaissons bien cette histoire, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourait tout le pays d'Égypte. Il était devenu numéro 2 dans le pays, juste derrière Pharaon, à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que sa formation a lieu dans ses années 20, quand il avait la vingtaine. C'est là où il a appris beaucoup de leçons, s'est bien comporté auprès de Potiphar, la femme de Potiphar, auprès des intendants de prison, etc. Il avait appris ses leçons dans la durée, ça perdurait ses épreuves. Il était patient, pondéré, et fidèle aux instructions de Dieu. Il a attendu le bon moment, il a fait preuve de patience, de maîtrise de soi, et Dieu a béni tout cela. C'est un très bon exemple d'un jeune homme qui s'est bien comporté dans des moments difficiles. Regardons ce que l'apôtre Jean dit aussi dans 1 Jean, l'épître de Jean, 1er épître de Jean, chapitre 2. Il dit plusieurs choses ici qui sont encourageantes, en particulier pour les jeunes gens, les jeunes hommes. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Quand il dit « vous êtes fort », il ne parle pas de force physique. C'est vrai que les jeunes hommes ont plus de force, mais il parle surtout de force spirituelle. Cela se voit par le contexte. Je vous écris parce que vous êtes fort dans l'esprit, vous êtes fort dans la foi. Votre relation avec Dieu est forte, et il les loue pour cela. La parole de Dieu demeure en vous. Les jeunes hommes sont capables de bien apprendre, de bien connaître la parole de Dieu et de bien la mettre en pratique également. Et c'est marqué, vous avez vaincu le malin. Des jeunes adultes, des jeunes adolescentes sont capables de vaincre le malin quand la parole de Dieu est en eux, demeure en eux, et qu'ils sont forts spirituellement. Je vous ai déjà parlé dans d'autres sermons d'exemples de personnes que Dieu a commencé à utiliser très jeune dans leur vie, s'est servi d'eux dès leur jeunesse. Ça montre que Dieu est bien capable, il est au courant de ce qui se passe en nous, quel que soit notre âge, quand nous faisons partie de familles avec lesquelles il travaille, il œuvre, et Dieu veille sur nous. Nous pouvons prendre l'exemple de Timothée, qui était jeune, pour Tite, qui était aussi jeune ministre. Revenons maintenant dans Tite, chapitre 2. Nous l'avons lu, le verset 7, mais après avoir parlé au jeune homme, il a dit à Tite, « Toi, montre-leur l'exemple », ce qui indique que Tite n'était pas très âgé. Il était plutôt dans la catégorie des jeunes gens. Te montrons toi-même, verset 7, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres. Sois un modèle pour les jeunes, toi qui es jeune. Donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Voilà l'exhortation que Paul adresse à Tite. Il était bien capable de montrer ce genre d'exemple et il l'a montré également. Poursuivons parce qu'il y a encore un conseil qui est donné. Nous voulons le mettre dans notre contexte actuel. Verset 9 de Tite chapitre 2 exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Il est question de serviteurs, et très certainement cela veut dire esclaves. L'esclavage était pratiqué au Nouveau Testament. À l'époque du Nouveau Testament, je veux dire, Paul a dit que les esclaves devaient se libérer s'ils le pouvaient, mais s'ils ne pouvaient pas, ils devaient se comporter convenablement comme le ferait un chrétien, même dans cette situation difficile. Bien, nous n'avons pas l'esclavage aujourd'hui, mais nous avons des entreprises, et nous tous, enfin presque tous, pour gagner un salaire, nous sommes en quelque sorte le serviteur de quelqu'un d'autre. On suit leurs instructions, on fait ce qu'ils nous demandent de faire, on accomplit nos responsabilités, et en échange, ils nous donnent notre salaire à la fin du mois. Ces instructions peuvent s'appliquer à des employés aujourd'hui. Non pas qu'on est esclave, je ne dis pas ça, mais les mêmes principes s'appliquent. Nous devrions être de bons employés, soumis à nos supérieurs, soumis dans le sens de faire ce qu'ils nous demandent de faire, d'accomplir les instructions qui nous sont données, d'être agréable comme employé, de ne pas être contredisant, chercher la petite bête, de ne rien dérober, ça va sans le dire, et de montrer une parfaite fidélité, d'être un employé exemplaire. Je pense que nous pouvons voir comment il y a des applications de cela à notre époque également. En tant qu'employés, donc, si nous sommes employés, nous avons aussi certaines responsabilités pour que la parole de Dieu ne soit pas maudite, ne soit pas calomniée. Quand tous ces éléments que nous voyons, que nous avons vus, sont présents, quand chaque membre de l'Église remplit les responsabilités et le rôle que Dieu lui a expliqué, eh bien cela présente un tableau frappant d'unité et d'harmonie entre différentes générations, qui peut briller dans un monde où ça se trouve de moins en moins. C'est un tableau assez différent de ce qui se passe très souvent autour de nous dans le monde actuel. Nous sommes dans une période froide actuellement aux États-Unis, mais moi qui ai grandi dans le nord des États-Unis, près de la frontière canadienne, on avait des hivers qui étaient très rudes, avec beaucoup de neige et beaucoup de souvenirs de cela. Et pour que les voitures puissent rouler dans ces conditions, on mettait du sable sur les roues, de les cendres, du sel, etc. Et les voitures salissaient de plus en plus tout au long de l'hiver. Peu de personnes lavaient les voitures pendant l'hiver parce que le lendemain, elle était tout aussi sale. Toutes les voitures se ressemblaient, toutes les voitures étaient sales par la fin de l'hiver. Et puis au printemps, au premier redoux, il y avait toujours quelqu'un qui lavait sa voiture avant les autres. Et du coup, on le voyait, on remarquait, tiens, une voiture propre qui passe. C'est la première que je vois depuis des semaines ou des mois. On avait vu toute l'accumulation, on voyait la saleté sur les autres voitures, l'accumulation sur les autres, en comparaison avec cette voiture qui était maintenant propre. Eh bien, nos vies en tant que chrétiens devraient être comme ça. On n'a pas un mot à dire. On n'a pas à se vanter que notre voiture est propre, notre vie est propre et les autres non, mais on devrait être un exemple que les gens remarquent. Tiens, voilà quelqu'un qui est différent. Cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, eh bien, il y a une différence dans le comportement, dans la façon de faire. Et ça peut être un grand outil dont Dieu se servira pour attirer plutôt d'autres personnes vers nous. Alors, disons maintenant, pour terminer, un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Paul dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Si tout était oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu nous a placés dans son corps. Il nous a appelés pour faire partie du corps de Christ. Ce que nous avons lu en Tite, chapitre 2 aujourd'hui, nous invite à réfléchir sur le rôle que Dieu nous donne maintenant, sur le rôle que nous avons à jouer dans le corps de Christ. Et après avoir réfléchi à cela, examiné nos propres exemples, demandons l'aide de Dieu pour remplir, mieux remplir notre rôle. Cela fera avancer l'œuvre accomplie par Jésus-Christ dans l'Église, donner des exemples plus frappants au sein de l'Église pour ceux qui sont dedans et dehors, et rendra plutôt plus efficace l'œuvre de l'Église de Dieu.